Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Next Episode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais pas aujourd'hui parce qu'on est entre filles et que nous les filles on fait pas ça. Mais tout ceci dans le respect du produit. Cette phrase extrêmement cliché était sponsorisée par moi-même. C'est reparti pour une année universitaire à Winchester. La saison 2 de Dear White People est disponible sur Netflix. La première avait débarqué au printemps dernier sur la plateforme de streaming. La série adaptée d'un long métrage éponyme signé Justin Simien, devenu au showrunner de la série et s'attacher à raconter la vie au sein du dit prestigieux campus en suivant notamment Sam White, animatrice d'une émission de radio jugée polémique puisqu'elle y dénonce les injustices très diverses et encore plus variées du campus. Retour sur les bancs de la fac avec Mélanie Wanga, bonjour.
Bonjour.
Et Charlotte Blum, bonjour.
Salut.
Et on retourne sur les bancs juste après l'info du jour. Une sorte de teaser et une date de sortie.
It's been the biggest joy to be able to do this again. Just being welcomed into this group and they're like, hey, come play with us. Let's go across the world and meet all these people and do this amazing show. This is great.
Toby Onwumere, probablement j'écorche son nom, a.k.a. Caféus dans le texte, est participant comme le reste du cast de Sense8 à cette vidéo promo annonçant la mise en ligne du final de la série des sœurs Wachowski, arrêtée puis repêchée pour un final qu'on nous promet d'anthologie. La fête de fin de tournage, c'est donc pour le 8 juin sur Netflix. Serez-vous de la partie ?
Pas du tout. Alors moi, je vais me faire défoncer. Je sais pas pour bon, tant pis.
Je le sentais, Charlotte.
Je trouve qu'à force, c'est vraiment comme mon point de vue, hein, mais à force de créer ce groupe hyper soudé, moi, je m'en sens complètement exclue. Et au lieu de m'identifier, de me dire que moi aussi, je fais partie de ce grand monde où nous ne sommes tous frères et nous ne sommes qu'un, eh ben, je regarde une bande de potes en colo et ça me gonfle en fait. Et j'ai l'impression d'être la nulle de la classe qu'on n'a pas invité à la boum.
Que le physio n'a pas laissé
ouais,
rentrer.
Ça me met super mal en fait. Donc ils sont très jolis, je les aime beaucoup. Mais j'ai plus envie de les voir.
Mélanie,
c'est dur. Hein non, moi j'adore. Et moi c'est bizarre, c'était au début de la série, je me sentais un peu comme toi, je me disais mais pourquoi on me parle d'eux, c'est qui ces gens? Et puis au fur et à mesure, je me suis complètement prise d'attachement pour ces personnages, même s'ils ont changé le noir entre la saison 1 et la saison 2. Hein, mais non, j'aime beaucoup cette série, je trouve que c'est très bien écrit et les personnages me font pleurer. Donc je serai là pour répondre à ta question.
Je vous inviterai pour le match retour en fait, une fois que l'épisode sera
en
ligne pour le débrief.
Très
non, c'était génial.
Allez, on parle de Dear White People.
Maybe someone sent you a fruit basket.
Yeah, and then they wrote the word bitch on a banana in an empowering way. Like, bitch. Okay, it's on.
Samantha.
A black woman speaks truth and society loses its mind.
You don't believe that people should hear a progressive message about race from a white person.
That's not why you're doing this. You're just doing it to get back at me.
Hey. I was gonna meet,
Alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est pas exclu, hein, je préfère prévenir, la fin de saison 1 a laissé Winchester en proie à des manifestations. Quelles en sont les répercussions, mesdames ?
Mm-hmm. Bah, c'était un peu une métaphore pour l'élection de Trump, même si ça n'avait pas, enfin, si ça c'était arrivé. Mais ouais, non, cette espèce de chaos avec tout le monde qui casse la fac, il y a des émeutes, des gens qui brûlent des trucs. Moi, j'avais aimé cette saison 1, je la trouvais un peu laborieuse. J'avais beaucoup aimé le film, par contre. Et là, j'avais trouvé la saison 1 un peu laborieuse et je me demandais comment ils allaient, enfin, ce qu'ils allaient évoquer dans la saison 2. Et ce que je trouve génial avec Dear White People, c'est que c'est une série qui réagit vraiment à son époque, quoi. Là, pour moi, la saison 2, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant que Trump a été élu, quoi. Comment on réagit?
Bah, on en chie, hein.
Ouais.
Voilà. Bah, pour continuer dans la métaphore, il y a un contre-pied en fait de ce qui se passe en ce moment en Amérique, c'est que pendant ces manifestations et pendant le climax final de cette manif, il y a eu un feu dans une des maisons de la fac qui oblige aujourd'hui les étudiants blancs et noirs à cohabiter dans la même fac, donc chez Armstrong Parker. Et en fait, ces deux mondes qu'on essaye de séparer au maximum sous Trump sont obligés de vivre ensemble et d'apprendre les uns des autres, ce qui est pour moi déjà un point de départ hyper brillant de cette saison-là, parce que pour l'instant, Sam, avec son émission de radio, elle parlait un peu à personne en fait. Personne ne parlait à personne dans cette série. C'était des duos qui débattaient, qui étaient de toute façon d'accord à la base. Et là, on a vraiment des groupes de personnes dans des salons qui vont être obligés d'ouvrir leurs oreilles et de s'écouter.
Ouais, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais que dans la saison 1, il y avait notamment des oppositions entre les personnages noirs qui montraient qu'ils n'étaient pas tous pareils. Par exemple, Coco, qui était en opposition avec Sam, qui était elle très ambitieuse, qui voulait surtout réussir ses études et puis trouver un job qui rapporte de l'argent et tout, et qui voulait pas du tout se mêler de politique, contrairement à Sam, qui elle était très investie. Donc, je trouvais que c'était une des subtilités de la saison 1 de montrer que tous les noirs n'étaient pas d'accord, si on peut dire ça comme ça. Mais là, effectivement, comme tu dis, là maintenant, il y a les blancs qui sont dans Armstrong Parker et tout le monde est obligé de débattre, quoi. Donc c'est quand même intéressant aussi, quoi.
La tagline de la saison 1 était « Bet you think this show is about you ». Pour cette saison 2, « Bet you think this show is about who ». On peut faire des trucs comme ça.
Tout le monde, hein, parce qu'on apprend tous hein, en regardant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils verbalisent vraiment les questions que tout le monde se pose en permanence, alors jusqu'à l'extrême, puisque tu as Gabe, donc l'ex-amoureux de Sam, qui est devenu moche. Alors je sais, il était super moche avant.
Je trouve qu'il est mieux maintenant.
Enfin, il a un côté.
Voilà, il se fait une petite mèche.
Ouais, je sais pas.
Il a un problème de biberite.
Oui, non, mais je sais. Ouais, Playmobil. Bref, il est collé sur la tête.
Mais il souffre, tu comprends.
Oh, pauvre chat. Bah oui, mais on souffre tous et on est pourtant très bien coiffé dans cette pièce. Donc voilà, ça va bien. Qui fait un film d'études, enfin voilà, il s'est lancé dans l'étude de documentaire et qui s'appelle Suis-je raciste ? Qui est un peu ça, la baseline de Dear White People, et qui met vraiment les pieds dans le plat, où il va parler de lui, puis il va interviewer d'autres étudiants. Donc elle parle de qui ? Elle parle de tout le monde, et puis elle parle de faites face à ce que vous racontez.
Oui, c'est vraiment, les Blancs se disent « Ah, on pensait qu'on n'était pas raciste, mais en fait Trump a été élu, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce qu'en fait on est dans une société raciste quoi ?» Et le personnage de Gab essaye de répondre à cette question-là, effectivement.
Mais alors pour être tout à fait précis sur le contexte politique, le tournage de la saison 1 avait pris fin le 8 novembre 2016, jour de l'élection du monsieur, là, le monsieur Orange. Du coup, est-ce que vous sentez vraiment un changement radical dans le propos sur la saison 2, ou en tout cas un glissement, et il se manifeste comment, en fait ?
Moi, je trouve que, en fait, en vrai, j'ai préféré cette saison parce que je trouve qu'elle est plus affirmée et qu'elle est plus créative. Parce qu'en fait, dans la saison 1, c'était très, très inspiré de Spike Lee, en fait. Des dialogues, des monologues de Spike Lee avec le personnage face caméra. Ça me bloquait un petit peu. Et effectivement, comme tu disais, que ça parlait à personne, ça prêchait des gens qui étaient déjà convertis, en fait. Et là, au final, la fin de la saison 1, c'est une forme de chaos. Et la saison 2, c'est comment survivre dans le chaos. Et donc là, on se retrouve, les personnages sortent de cette espèce de rail qui suivait, où ils disaient « Alors moi, je pense ça parce que Obama, il a été élu. » Là, c'est vraiment, on essaye de se parler les uns les autres, on essaye de se comprendre, on se retourne vers soi-même, quoi. Donc, pour moi, ça, ce dialogue-là, c'est ça en fait qui se passe sous Trump. Enfin, c'est ça en fait. Les gens se posent des questions sur eux-mêmes et se disent est-ce que ce que j'ai toujours cru sur moi-même, est-ce que c'est ça en vrai ?
Obama qui se retrouve maintenant à être une couverture de magazine coupée en morceaux pour des demandes de rançon pour un chien, quoi. Enfin, c'est ça l'image, c'est catastrophique. Et puis il y a un autre truc aussi, je trouve, qui répond beaucoup à ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la libération de la parole de la droite et de la droite extrême aux États-Unis, avec le traitement des réseaux sociaux. Je me rappelle jamais comment il s'appelle, Coco, là. AltIVW,
ouais,
qui est un troll. Bon, alors, on va pas dire qui c'est, mais qui est un gros troll et qui troll surtout Sam et qui essaye, en gros, de créer le chaos dans la communauté afro-américaine au sein de l'université. Donc, il a, elle, en ligne de mire parce que, elle parle trop.
Elle est exposée.
Elle a trop la parole. C'est pas possible. Il faut la faire taire. Et en plus, il essaye de montrer que, les gens ne savent pas se comporter comme il faut et de balancer sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe chez Armstrong Parker et d'être, vraiment le troll qui a la parole libérée. Et puis face à lui, tu as une nouvelle émission de radio, Dear White People. Avec trois losers qui sont ouvertement racistes avec des blagues mais horribles. Je veux dire, c'est hyper embarrassant à regarder. Mais à qui on donne l'égalité face à Sam et à son émission en mode, tu sais quoi,
c'est la même chose
en parole.
Fait.
Tu veux l'égalité, tu vas l'avoir.
Toutes les décomplexions, en fait. Allons-y gaiement.
Alors moi, pour revenir juste sur sur ce troll, et ça m'a fait penser, je pense que Justin Simien s'est inspiré de la vraie vie, ça m'a fait penser à Milo Yiannopoulos, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un troll alors gay, mais d'extrême droite, et il écrivait pour Breitbart, qui est un média d'extrême droite américaine, et c'était vraiment le gars, il faisait toujours des trucs complètement polémiques, à deux balles, où il insultait les noirs, les juifs, voilà, les féministes, et il s'est fait, il a récemment été en fait, il s'est fait virer de Breitbart parce qu'il a défendu en fait, la pédophilie chez les jeunes, pédophilie homosexuelle chez les jeunes. Donc c'est ça en fait qui l'a fait virer. Avant, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. On dit mais non, mais c'est la liberté d'expression. Et puis quand il a dit en fait c'est bien de violer des enfants, on lui a fait ah non, tu peux tout dire mais pas ça. Hein. Le racisme ça va mais pas ça. Donc ça m'a fait penser à ce personnage-là. Quoi.
La saison 1 avait été estampillée série satirique. Est-ce que l'appellation vous semble toujours...
Est-on dans un monde où la satire existe encore ? C'est la question.
Bah, pour moi, alors,
est-ce que c'est vraiment une série satirique en fait ?
Dans le sens où elle s'apparentait un peu, à mon sens, à VIP pour la saison 1 et plus à The Newsroom pour la saison 2. Donc pour moi, elle est plutôt passée avec un équilibre satire politique et maintenant elle est plus du côté politique pour moi que du côté satirique. Je trouve qu'elle est moins humoristique. L'humour, elle va être dans les nicknames qu'on se donne entre nous et puis des petits rebondissements parce qu'on retrouve le chien sorbet. Enfin, voilà, c'est la limite du comique dans cette saison-là. D'ailleurs, je trouve que la plume, elle est de plus en plus sorkinienne et de plus en plus chantante. Enfin, je trouve l'écriture de cette série monumental, vraiment monumental. Donc j'ai plus envie de la mettre dans le pur politique que dans la satire.
Ouais. Je pense que l'époque appelle à on pouvait satiriser à l'époque où le racisme était sous-jacent, on pouvait dire est-ce que ce serait pas un petit peu raciste, allez on va faire une satire, mais là quand le truc est face à toi,
les vannes ont été ouvertes,
c'est difficile de satiriser ça quoi. Enfin, je pense qu'il faut être plus franco et c'est ce que j'ai ressenti en regardant la série en tout cas.
Mais c'est-à-dire que ça donne aussi, alors je ne sais pas si vous partagez, ça donne l'impression qu'en fait la réalité est telle que tout ce qui pourrait être écrit pour pancarter tout ça serait en dessous de la réalité sur certains sujets en fait.
Ah bah oui, il y a un côté racisme larger than life, c'est-à-dire qu'on assiste à des trucs complètement aberrants, mais comme tu le disais en ouverture, dès lors que Trump est le président des États-Unis, de toute façon on est dans un truc à la fois frontal et surréaliste, donc faut arrêter de prendre des pincettes, ça y est c'est fini ça.
Mais je trouve que du coup la série s'en sort pas si mal avec ça, parce que ça pourrait être un événement complètement paralysant vu le sujet de la série, en disant on est battu en fait, c'est pas, voilà. Mais je trouve que ça s'en sort relativement bien, en intégrant ce contexte-là.
Mais on prend des forces. Sous les périodes difficiles politiques, l'art se libère, essaye de créer des choses qu'on n'a pas vues avant. Donc.
C'est le dada de Netflix.
Ouais.
Un peu. Ouais, mais c'est un mérite qu'on peut leur reconnaître,
bien sûr.
Une des grandes forces également de la série, c'est de jouer des stéréotypes, justement, en proposant une galerie de personnages qui sont finalement assez loin de ce qu'on a vu jusqu'ici, ou qui sont en tout cas... assez différent du topo de départ. On garde ça dans la saison 2 ou...
Ouais, moi je m'identifie beaucoup à Sam, parce que comme elle, je suis métisse, et comme elle, j'ai un podcast où je parle de relations raciales. Mais je trouve son personnage très intéressant, parce que dans la saison 1, elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut dire, elle connaît toutes ses définitions sur le racisme, et là, elle est complètement paumée en fait en saison 2, parce qu'elle se prend des trolls, et tout le monde lui dit, mais en fait, t'arrêtes pas de t'exprimer, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens pour qui c'est pire que toi ? Est-ce que tu te rends compte qu'en étant métisse, tu as aussi une part de toi blanche ? Et donc, on t'écoute plus parce que tu es proche des Blancs, en fait. Et elle remet tout ça en question, elle réfléchit à tout ça. Et je trouve ça plus intéressant, la manière dont elle aborde, en fait, son activisme et sa politique dans cette saison-là. Parce que c'est plus intéressant quand les personnages sont pas sûrs d'eux et se disent « Mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, quoi ?»
Charlotte, tu t'es vu faire un mouvement avec tes sourcils quand j'ai parlé des stéréotypes.
Non, parce que j'essayais de comprendre exactement vers où on allait. Donc... Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments carrément où Sam est devant le micro et elle sait plus du tout quoi dire. Parce qu'en fait, elle s'est mise en mode réflexion où tu sentais que vraiment, effectivement, la saison, elle était en mode bulldozer. C'est-à-dire que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, elle avait une réponse en tête et elle savait où elle allait. Et au moment où elle découvre ce troll, elle a une espèce de scène dingo où elle va lui répondre pendant deux jours en mode je ne dormirai pas,
ça
je vais
aussi,
répondre
je l'ai
à tout. Ah oui, mais, et au bout d'un moment, elle peut plus en fait.
Ouais,
elle lâche. Et quand on arrive là, la seule solution, c'est de faire un pas en arrière, de regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre comment te sortir de cette situation sans te rendre malade toi-même. Mmh. Et quasiment tous les personnages finalement de la série sont en remise en question dans cette saison-là.
et pas épargnés dans leurs contradictions, en fait. C'est aussi ça, ce qui est très intelligent dans la série. C'est-à-dire que, enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait être des monolithes, c'est-à-dire qu'ils pourraient être dans leur bon droit, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils... Mais en fait, ils sont tous, à un moment ou à un autre, soumis à une forme de contradiction, à leur valeur.
Tu vois, Reggie qui faisait genre, qui roulait des mécaniques alors qu'il s'est juste fait pointer par un flic en plein milieu d'une fête. Et c'est vrai que les gens disaient à la fin de la saison, mais attends, Coco, t'es pas... tout va bien là, ça va. Et c'est vraiment à cette saison 2 qu'il lâche l'affaire, il lâche la carapace et il est en stress post-traumatique et il admet que ça ne va pas et il est prêt à commencer à parler un petit peu et à entendre qu'il a le droit de souffrir en fait, il a le droit d'être pas bien.
Quelque chose qu'on a du mal à entendre chez les hommes noirs en fait, cette vulnérabilité, enfin, dans les médias et dans les films et dans les séries, les hommes noirs sont souvent montrés comme des personnages très forts, très virils, très... que rien n'atteint, et du coup c'est intéressant de voir un personnage comme ça qui s'ouvre et qui se dit oui, en fait ce que j'ai vécu c'est traumatisant.
Mais dans mon souvenir, pardon, parce que j'ai regardé la saison 1 un bout de temps, il y avait bien un épisode réalisé par Barry Jenkins, justement sur... C'est ça,
ouais, c'est dans celui-là où il y a un gardien de sécurité du campus qui sort son flingue en lui demandant sa pièce d'identité.
Ouais. C'est un épisode assez brillant d'ailleurs.
Moi je crois que c'était le meilleur de la saison. Mais... Ouais.
Il est très fort Barry Jenkins en même temps, hein, bien dire ce qu'il est.
Ouais.
Sur un registre très différent et beaucoup plus léger, est-ce qu'on a une explication quant au titre québécois de la série, à savoir Mouton Blanc?
Ça, je savais pas.
Voilà,
oh my god, ils ont osé.
Bah ouais.
Ouais. Est-ce qu'on a une explication?
Est-ce que c'est une question de point de vue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon de, d'encore plus... Non, mais tu vois, de mettre les spectateurs dans leur retranchement et de les faire se questionner dès le titre de la série.
Oui, parce qu'en plus, Dear White People comme titre, c'est très très fort parce que le showrunner Justin Simien disait que dès la sortie du film, il a eu des trolls sur Internet, des gens qui l'ont insulté juste pour ce titre. Juste pour le titre. Ils n'avaient pas vu le film, ils n'avaient pas vu la série, mais à cause du titre, le mec s'est fait harceler. Quoi. Donc c'est quand même un titre qui n'est pas anodin. Mouton Blanc, je ne sais pas, peut-être, moi je trouve que ça adoucit un peu, on se dit, ah, c'est quoi un documentaire animalier, enfin, tu vois, je...
Mais Dear White People est quand même un titre hyper fort.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu j'ai vu un tweet passé qui était assez marrant, avec l'affiche dans le métro de New York et des blancs qui regardaient le truc en étant hyper vénère, et quelqu'un dit, attention, ils vont appeler la police sur le poster.
Il va y avoir une intervention.
C'est exactement ça. Ouais.
Il a déjà été annoncé que la série était renouvelée pour une troisième saison. Si on joue au pronostic, quelle direction, à votre avis? Et est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut continuer sur une troisième saison? Ou est-ce que...
Oh, bah, faut la continuer tant qu'il y a Trump, hein, déjà, premièrement,
hein,
parce que ça, puis il y a des choses qu'ils évoquent là. Enfin, tu vois, on parle de Reggie, des bavures policières, il faut continuer à en parler, parce que c'est aussi ça aussi, je pense, qui fait que Reggie disait rien, c'est que c'est devenu une banalité aux États-Unis. Les flics blancs tirent sur des noirs, et puis voilà, tout le monde s'en fout, personne va en prison, personne ne paye. Et ça date pas de Trump, ça date de bien avant. Donc il y a tellement de choses qui sont rentrées dans l'esprit collectif, comme si c'était le quotidien, que c'était banal, comme les tueries dans les facs. Aujourd'hui, ils te font une news, il y a une tuerie dans une fac, le lendemain il y en a une autre, voilà, et je trouve que cette série là c'est une façon de faire du macro et de dire non mais attendez, parce que quand il se passe tout ça, voilà les personnes qui souffrent et voilà ce qu'elles vivent et voilà comment c'est le quotidien, c'est pas juste une ligne sur un magazine JT. Donc de toute façon, tant que l'Amérique sera détraquée et que le monde sera détraqué, on aura besoin de séries comme ça.
Oui, il y en a plusieurs alors.
Forever.
Ouais, c'est ça, c'est l'infini. Mélanie, troisième saison.
Troisième saison, oui, je suis partante, sachant que dans cette deuxième saison, il s'est passé quelque chose dont j'étais très 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 contente, c'est qu'il y a eu un épisode sur mon personnage préféré qui est Joël, la meilleure amie de Sam, qui n'avait pas eu en première saison. Et d'ailleurs, j'étais assez choquée de voir des épisodes sur tous les autres personnages et pas elle, alors qu'elle est géniale. Et son épisode était incroyable, je spoil pas, mais j'ai beaucoup ri dans cet épisode, parce que ils ont mis le doigt sur quelque chose, donc la figure du Hotep, et je trouve ça génial. J'ai eu plein de textos de gens qui m'ont dit mais c'est quoi un Hotep, et donc voilà, je vous conseille cet épisode.
Mélanie, c'est quoi un Hotep?
J'ai le droit, ça spoil pas. Un Hotep, c'est un homme noir hétérosexuel qui considère que l'homme noir doit être avec une femme noire, ce qui est tout à fait voilà, les goûts et les couleurs. Mais en revanche, cette femme noire, elle doit pas trop se déshabiller, tu vois. Il faut qu'elle se respecte parce que c'est une reine nubienne. Et puis, par contre, l'homosexualité, c'est un truc importé par les Européens. Et c'est un scandale, les Noirs qui sont homosexuels. Et puis, c'est un scandale, les Noirs qui... En gros, voilà, c'est un mec misogyne, homophobe, homophobe et pour qui la seule cause valable c'est celle de l'homme noir. Et donc en fait on l'aime pas quand même, les Hotep on les aime pas, et donc dans la série il y en a un et c'est très 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 drôle.
Voilà, donc à voir dans la saison 2 hein, de Dear White People. Si je vous demande une recommandation en rapport avec avec la série ou...
Bah, ça va être complètement cliché, mais bon, tant pis, parce que pour moi, elles ont un peu le même rôle aujourd'hui. Je vais remettre une millième couche sur Atlanta avec une saison 2, mais juste au top
bien.
De... Bah, on est qu'en juin, on est qu'en mai, mais pour moi, ça sera la série de l'année et on pourra rien faire contre ça. Et de la même façon que Dear White People, il y a des choses à faire passer, il y a des choses à débanaliser, il y a des choses à raconter. Et ces séries-là, aussi comme Blackish, les racontent très bien. Donc Atlanta, mais un milliard de fois, quoi.
Très très Mélanie. Bien Atlanta. Moi j'en ai deux, on a le droit dans cette
mais
émission.
On a tous les droits.
Alors la première c'est The Good Fight qui est une série d'avocats, qui c'est un spin-off de la série The Good Wife, c'est très 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 bien, ça se passe dans une firme d'avocats afro-américaine et donc pareil ça traite beaucoup les violences policières, les cas en fait de racisme au travail, les personnages sont géniaux, trois femmes dans les rôles principaux. Moi j'adore cette série, ça me fait hurler de rire. Et ma deuxième recommandation, c'est Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, qui est aussi sur Netflix, qui est un peu la petite sœur au final de Dear White People, puisque c'est une série qui a été produite et réalisée notamment par Spike Lee. Et donc c'est
adapté d'un long métrage.
Adapté du film en anglais She's Gotta Have It. Voilà. Et donc ça parle de Nola qui est une artiste brooklynienne et qui vit d'amour et de polyamour, enfin de polyamour et d'eau fraîche.
Ouais, voilà. De polyamour et d'eau fraîche, c'est bien résumé.
Voilà.
Alors moi je suis pas censée faire de reco, mais comme aujourd'hui on fait ce qu'on veut, bah, je m'en fous en fait. Et puis du coup comme c'est moi qui parle, personne va me contredire. Pour compléter ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est pas une série, c'est un clip. Allez voir This Is America, qui est donc le clip de Childish Gambino alias Donald Glover. Et puis si vous avez des questions, bah, peut-être vous en aurez moins après avoir vu le clip. Enfin voilà, au-delà d'un excellent morceau, c'est aussi un clip très important, donc allez le voir. Je sais pas,
ouais. Très bonne reco.
Voilà.
Absolument.
Merci beaucoup mesdames, merci Mélanie Wang, merci Charlotte Bloom. Next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure.
MDR sur Séance Radio.
En fait, tu disais c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent, quoi.
Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises.
Ces personnages sont censés nous raconter quelque chose et c'est ce que tu disais, Max, ils nous racontent rien.
C'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio.
Bah écoute, déjà, premièrement, moi, c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 en termes de comédie française.
Et sur toutes les applications podcast.